Alors, j'ai mon sac ici. Vous voyez bien mon sac. Et je veux que vous imaginiez que j'ai une bombe nucléaire dans mon sac. D'accord? J'ai une bombe nucléaire dans mon sac. Mais c'est bon, vous n'avez rien à craindre parce que j'ai pas armé cette bombe nucléaire. Vous voyez, je suis la personne unique qui a cette clé unique. Moi, je pourrais l'armer, mais la bombe n'est pas armée. Vous êtes tranquille? Mais attention! Ah! La bombe est armée. Je pense que c'est le moment de quitter Paris. Franchement, je vous encourage à quitter Paris parce que vous connaissez les bombes nucléaires. C'est Paris. Alors, ce que je viens de dire, c'est en quelque sorte de mettre en valeur qu'il y avait une bombe nucléaire dans l'Ancien Testament. En fait, je reprends ce que j'ai dit la semaine dernière, mais que le psaume 110 était en quelque sorte comme une bombe nucléaire dans l'Ancien Testament qui n'avait pas été armée. Et la bombe, c'était l'idée ici dit au verset 4, l'Éternel l'a juré, il ne reviendra pas sur son engagement. Tu seras prêtre pour toujours selon la ligne de Melchizedek. Et pourquoi c'est explosif? Ben, on va voir. Mais Dieu adresse la parole au Messie, au roi. Et il dit déclaration de l'Éternel. Il dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis comme un escabeau sous tes pieds. Et franchement, tant que le Messie n'était pas assis à la droite de Dieu, c'était comme une bombe nucléaire qui n'était pas encore armée. D'accord? Mais, bienvenue. Mais une fois que Jésus est venu, une fois que Jésus est mort, ressuscité, et qu'il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu, là, la bombe nucléaire a été armée. Et c'était comme avec des questions explosives pour la religion juive. Voilà les questions. Si vous étiez là la semaine prochaine, la semaine dernière, vous allez vous en rappeler. Mais s'il y a un prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek, qu'en est-il des prêtres lévitiques? Et si les prêtres lévitiques sont... Il y a une point d'interrogation sur les prêtres lévitiques. Qu'en est-il du temple? Et ensuite, qu'en est-il de la loi de Moïse qui a établi le temple et la prêtrise lévitique? Et donc l'alliance de Sinaï. Vous voyez qu'il y a vraiment un tremblement de terre sous le cœur de la religion juive. Et puis, la dernière question, c'est qu'en est-il des sacrifices qui étaient vraiment au cœur de la religion juive? Alors, l'auteur jusqu'ici, il a répondu à cette question-là sur les prêtres lévitiques. Il a commencé à répondre sur la question sur le temple. Et puis, il a aussi commencé à répondre sur la question sur l'alliance. Mais il n'a pas vraiment touché à la question des sacrifices. Et c'est au chapitre 9 et 10 où il va répondre à la question, qu'en est-il des sacrifices? Et il va donner des réponses, mais il va toujours s'intéresser aux autres questions en même temps. Donc vous voyez, le psaume 110, avant la venue de Jésus, c'était comme une bombe nucléaire qui n'était pas armée. Donc pas de danger. Mais une fois que Jésus est venu, qu'il est mort, ressuscité, monté au ciel, il y avait des conséquences. Et Hébreux, et vraiment le sujet de l'épître aux Hébreux, c'est les conséquences de la venue de Jésus. Alors, ce soir, dans ce long chapitre, nous allons voir qu'il y a quatre choses que je voudrais mettre en valeur, en tout cas, dans ce chapitre, et qui va nous aider à comprendre davantage ce qui est advenu avec la avec Jésus. Donc, premièrement, on va voir que avec l'ancien système, il y avait un accès très limité auprès de Dieu. Dieu était au milieu de son peuple, mais l'accès à Dieu était très, on pourrait même dire très, 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 très limité. C'est dans les versets 1 à 10. Je lis les premiers 5 versets. La première alliance avait, elle aussi, ses ordonnances relatives au culte et son sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle ou une tente avait été installé dans la première partie, appelée lieu saint, se trouvait le chandelier, la table et les pains de proposition. Puis, derrière le second voile, se trouvait la partie appelée saint des saints. Elle contenait un brûle-parfum en or et l'arche de l'alliance, entièrement recouverte d'or, dans laquelle il y avait une urne d'or contenant la manne, ainsi que le bâton d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche se tenaient les chérubins de gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Il n'y a pas lieu d'en parler maintenant en détail. Donc, en quelque sorte, cette dernière phrase nous avertit, c'est une mise en scène qu'il est en train de faire du temple. Et là, j'ai des images qui peuvent nous aider. Il a vraiment, ça c'était la cour autour du temple. Autour de la cour, il y avait les tentes du peuple d'Israël qui étaient campées autour du tabernacle et Dieu était au milieu de son peuple. Incroyable. Dieu du ciel et de la création, le créateur qui était au milieu de son peuple. Mais il y avait une première barrière. Ensuite, il y avait cette première tente. Et puis, il y avait une deuxième tente et un voile qui séparait les deux tentes. Voilà, ça c'est une autre image. Merci Romuald. Et on voit le voile là qui sépare le lieu saint du lieu très saint. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche de l'Alliance. Voilà une image de ce que ça aurait pu, comment ça aurait dû être. Et les chérubins se protègent des yeux avec leurs ailes parce que, en fait, le trône de Dieu était au-dessus. Et donc, en fait, Dieu, c'était la chambre de sa règne, c'était son trône, c'était là où Dieu régnait au milieu de son peuple, au-dessus de ses représentations d'anges, des chérubins, et au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et il y avait les tables des 10 commandements dans l'arche pour peut-être représenter le règne de Dieu par sa loi. Alors, il présente cela assez rapidement parce que en fait, il y a des choses qu'il veut mettre en valeur. Et c'est dans les versets 6 et 7 qu'on commence à voir qu'est-ce qu'il veut vraiment mettre en valeur. Donc je lis les versets 6 et 7. Tout cela ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Voilà, dans cette partie-là, il y avait un accès tous les jours pour les sacrificateurs en tout temps. Lorsqu'ils accomplissent les cérémonies du culte. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Donc une deuxième chose, qu'est-ce qui est mis en valeur dans ces versets-là? Tout d'abord, je pense qu'il y a l'idée de répétition, que tous les jours, les prêtres entraient ici, ils étaient pas loin de la présence de Dieu, mais ils étaient quand même, il y avait ce voile qui les séparait de la présence de Dieu. Et puis, tous les ans, uniquement une fois par an, le souverain sacrificateur, une seule personne parmi le peuple d'Israël, avait le droit de pénétrer dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Et il ne pouvait rentrer, troisième chose, voilà. Donc, une deuxième chose, donc, on voit qu'il y a une distinction entre le lieu saint et le lieu très saint, et qu'il y a en quelque sorte une barrière entre la présence de Dieu et ce qui est plus à l'extérieur. Et troisième chose, le péché non seulement du peuple, mais du prêtre, du souverain sacrificateur est mis en valeur, parce qu'il fallait qu'il offre des sacrifices pour son propre péché et aussi pour le péché de son peuple. Alors, l'auteur tire deux leçons de cet état de fait. Au verset 8, on voit la première leçon. Le Saint-Esprit montrait par là que l'accès du Saint des Saints n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Voilà, et c'est vrai. C'est vraiment, il n'y a presque aucun accès dans la présence de Dieu sous la première alliance. Seulement le souverain sacrificateur, seulement une fois par an, pour pas très longtemps non plus. Alors, les groupes qui vont discuter, les groupes de discussion vont approfondir sur Lévitique chapitre 16, qui décrit ce jour, cet jour unique dans l'année où le souverain sacrificateur pourrait percer dans cet endroit-là. Donc vous voyez, il y avait un accès très, très, très limité dans la première alliance. Mais il y a une deuxième leçon que l'auteur tire au verset 9 et 10. C'est une figure, et là on entend ce qu'on a vu la semaine dernière, que la première alliance, en fait, c'était une figure, une ombre de la réalité. C'était une figure pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent mener à la perfection sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça dans la version Semeur, le verset 9 et 10, parce que c'est un peu plus difficile à suivre. Verset 9 et 10.
Nous avons là une représentation symbolique des réalités de l'époque actuelle. Elle signifie que les offrandes et les sacrifices qu'on présente ainsi à Dieu sont incapables de donner une conscience parfaitement nette à celui qui rend un tel culte. En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Ces rites d'ordre matériel ne devaient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau.
Merci bien. Alors, c'est très intéressant. Donc, ces rites étaient incapables de donner une conscience nette. J'aime bien cette manière de l'exprimer. À celui qui s'approchait de Dieu de cette manière-là. Impossible d'avoir une bonne conscience devant Dieu sous l'ancienne alliance. Et par extension, sous la nouvelle alliance, ça sera possible. C'était uniquement valable pour donner une pureté rituelle ou une pureté extérieure à celui qui s'approchait de Dieu de cette manière. Alors, je voulais juste réfléchir sur cette idée d'avoir une bonne conscience, parce que très souvent, lorsqu'on pense au système sacrificiel et à notre manière de nous approcher de Dieu, on pense à la nécessité d'un sacrifice et puis la nécessité de la mort de Jésus pour satisfaire la justice de Dieu. Ça va? C'est le problème est chez Dieu, en quelque sorte, on pense parfois. Mais ici, est-ce que vous remarquez qu'il dit que le problème est aussi chez nous, que nous avons un problème de mauvaise conscience. Et si on a une mauvaise conscience, on ne va jamais s'approcher de Dieu, par peur de lui. Je crois que c'est ça qui est en jeu. Donc le problème de l'ancien système n'est pas seulement qu'il y a un accès limité, mais c'est qu'on ne peut pas nous approcher de Dieu, même de notre côté. Dieu, il met des limites, d'accord? Ça, c'est clair. Dieu, il met des limites. Mais de notre côté, à cause de nos fautes, à cause de notre péché, on ne peut pas nous approcher de lui non plus. Je pense que vous avez fait l'expérience, des fois, d'avoir eu un bon prof. Levez la main si vous n'avez jamais eu un bon prof au lycée, au collège. De mathématiques, de physique, de quelque chose, de français. Oui, la plupart des gens. Alors, je pense à un... Hein? Ah, pardon. Qui a eu un bon prof? Pardon. Alors, moi, le type de bon prof auquel je pense, c'est pas uniquement un prof qui était très sympa, mais un prof qui avait de la discipline, qui était en quelque sorte sympa, mais qui tenait... de l'ordre dans sa classe, qui faisait en sorte, en fait, qui inspirait un peu de peur. Parce que on savait si on ne faisait pas son devoir, en fait, qu'il aurait des conséquences. Et donc, voilà, est-ce que vous pouvez vous rappeler peut-être d'une occasion où vous êtes allé dans cette classe-là avec ce bon prof sans avoir fait votre devoir? C'était peut-être avec un peu de crainte que vous êtes allé. Un peu de peur, avec une mauvaise conscience. Ben, je vois ça avec mes enfants. Il y en a un qui fait un peu moins bien ses devoirs que les autres. Et il y a quelques jours, il pleurait. Il ne voulait pas aller à l'école. C'était la catastrophe. On a de notre côté du mal à nous approcher de Dieu. Et la chose, c'est qu'on sait que Dieu est exigeant. Du moins, si on connaît Dieu. Il y a des gens qui disent, ben, Dieu est mon pote. Moi et Dieu, on est comme ça. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas que Dieu est très, très exigeant, que Dieu ne tolère pas le moindre faute. Et je pense qu'il savait que ce système-là était inefficace. Si on avait autant de mal à s'approcher de Dieu, il y avait dans le système même l'idée qu'il était difficile de s'approcher de Dieu. Et donc la question se pose, comment nous pouvons-nous nous approcher de Dieu? Alors, heureusement, il y a une suite. Donc, les versets 11 à 15. Ah. Donc, où ça parle d'une rédemption éternelle. Mais Christ est venu. Donc voilà, il y a vraiment une opposition entre cette première présentation de l'ancienne alliance et la venue de Jésus. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs et des taureaux est la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, les sanctifie de manière à purifier la chair, combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Voilà pourquoi il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Alors ce « mais » signale vraiment que l'auteur bascule de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Mais si on a des doutes, au verset 15, il dit effectivement que par son sang, il a scellé la nouvelle alliance. Et pour parler de la nouveauté que Jésus a apportée, il le fait en faisant une comparaison avec l'ordre ancien, merci. En fait, lorsqu'il y a un changement de gouvernement, souvent c'est le cas, ils disent ben, « on n'est pas comme ces gens-là ». Et il y a un peu de ça ici. Quels sont les contrastes qu'on peut repérer? Alors, tout d'abord, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, qui est une ombre de la réalité. Donc c'est vraiment très très pédagogique. Même si l'ancienne alliance était inefficace, l'ancienne alliance est très très utile pour comprendre ce que Jésus a accompli pour nous. Donc, c'était le tabernacle terrestre. Mais Jésus, il a fait son ministère dans le sanctuaire céleste, là où Dieu siège en réalité. Tout le monde savait que Dieu ne siégeait pas dans le Saint des Saints du tabernacle. C'était symbolique de sa présence. Mais Dieu, il siège au ciel, et c'est là où Jésus est allé. Alors, dans l'ancien système, c'était souvent, tout le temps, ils devaient faire des sacrifices. Chaque année, année après année après année. Mais Jésus, il a fait une fois pour toutes. Quelle efficacité! Avec l'ancienne alliance, c'était avec le sang des animaux. Mais dans la nouvelle alliance, c'était son propre sang. Qu'est-ce que c'est cher! Le sang de Jésus. Dans l'ancienne alliance, c'était avec des victimes involontaires. Alors, je n'ai pas mis de verset parce que ce n'est pas vraiment dit. Mais une bête qui est menée pour être engorgée. Ouais, c'est comme ça, on prend l'agneau. Je l'ai vu une fois. Et je peux dire, il y a beaucoup de sang. Mais c'est involontaire. Est-ce que vous pensez que ces animaux qu'on a traînés jusqu'à Jérusalem voulaient être tués? Est-ce qu'ils ont crié lorsque on les a tués? Oui. Mais Jésus, volontairement, s'est offert à la croix. Et puis, c'était charnel ou extérieur, alors qu'on lit au verset 14 que Jésus a offert par l'Esprit éternel son sacrifice. C'était une action en collaboration avec l'Esprit de Dieu. Alors, les résultats, seulement une purification extérieure, une purification rituelle, mais avec Jésus, une purification intérieure, une bonne conscience devant Dieu. C'est ce que nous avons lu. Et une rédemption éternelle. Les résultats sont franchement incroyables lorsqu'on compare l'accès limité et la mauvaise conscience de l'ancien système et la rédemption éternelle et la bonne conscience du nouveau système. Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, il y a beaucoup de choses qui font la différence, mais notamment le sacrifice offert. C'est qui est ce Jésus qui s'est offert? C'est le Fils de Dieu, nous avons appris au chapitre 1 de Hébreux. C'est le Messie, on a appris au chapitre 1 d'Hébreux. Et au chapitre 2, nous avons appris que c'est l'homme par excellence. C'est pas n'importe qui. Et puis, c'était offert par l'Esprit éternel. Je vois au verset 14 un clin d'œil au chant du serviteur du livre d'Ésaïe. Combien plus le sang du Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Dans les chants du serviteur de l'Éternel, ce personnage devait être rempli de l'Esprit. Jésus fut rempli de l'Esprit. Et ce personnage devait s'offrir volontairement sa vie en rançon de son peuple. Jésus s'est offert volontairement pour son peuple. Alors, nous allons creuser cela davantage la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas m'attarder plus sur la question du caractère du sacrifice. Mais je voulais revenir à cette question de la conscience. Parce que il parle bien d'une conscience purifiée. Donc, combien purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes pour que nous servions le Dieu vivant? Et j'aimerais bien juste remarquer, il y a une relation très proche entre votre conscience, et notre manière de servir Dieu. Si on a une mauvaise conscience, franchement, on a du mal à servir Dieu. On ne s'approchera pas de Dieu. Si on a une bonne conscience, eh bien, Dieu, il est mon pote. Pas parce que je pense que je suis assez cool, mais à cause de Jésus. Et j'ai une bonne conscience, donc je peux le servir sans aucun problème. Alors, il y a parmi vous des gens qui ont des consciences tendres. Peut-être c'est quelque chose qui vous accompagne tous les jours. Voilà, vous êtes toujours avec une mauvaise conscience. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je le sais parce que j'en connais d'autres et je fais partie de ces gens-là, ou j'en faisais partie en tout cas. La moindre chose... Si, Déborah sourit, elle sait que je fais toujours partie de ces gens-là. Voilà. Et Libby sourit aussi. Mais franchement, pendant des années, il y avait quelque chose qui a fait que ma vie avec Dieu était un enfer. J'étais chrétien. Je croyais que Jésus m'avait sauvé. Mais c'était... Je le présente parce que peut-être pour vous c'est quelque chose d'autre. Mais c'était le culte personnel. Pendant des années, alors le culte personnel, si vous ne connaissez pas ce que c'est le fait de passer du temps avec Dieu chaque jour, de lire sa parole, de prier. C'est le nom qu'on donne à cela. Peut-être on ne devrait pas donner ce nom-là, mais voilà. Et effectivement, si j'avais loupé ma lecture de la Bible et prière un jour, j'aurais une très, très, très mauvaise conscience pour la suite de la journée. Et le lendemain, j'avais du mal à lire ma Bible parce que j'avais une très, très mauvaise conscience et je ne voulais pas m'approcher de Dieu parce que j'étais sûr que Dieu était en colère contre moi. Alors, je vois quelques-uns qui hochent la tête, qui connaissent. Peut-être vous ne connaissez pas cela. Mais une mauvaise conscience, en fait, c'est horrible parce que, en fait, on ne s'approche pas de Dieu. On garde Dieu loin parce que on a peur de lui. C'est ça. On a peur de lui. Et à un certain niveau, on a raison d'avoir peur de lui parce que il est très, très exigeant. Mais, la manière dont on peut s'approcher de Dieu n'est pas sur la base de ce que nous faisons. Ce n'est pas sur notre performance, c'est sur le sacrifice parfait de Jésus. Et ça m'a mis des années à comprendre. Et finalement, c'était la lecture de Hébreux qui m'a finalement fait tilt, que ça ne dépendait pas des choses que je faisais. Même si je le savais intellectuellement, c'était ici où j'avais, dans ma conscience, où j'avais le problème. Et en quelque sorte, d'avoir une bonne conscience, ça m'a libéré. Est-ce que j'ai des problèmes à lire la Bible tous les jours maintenant? Oui. Mais si j'ai pas lu la Bible hier, est-ce que je peux facilement le lire aujourd'hui? Oui, parce que j'ai pas une mauvaise conscience. Je pense pas Dieu m'aime toujours. Et donc, il sera très content que je lis sa parole aujourd'hui, et moi je serai très content de le rencontrer dans sa parole. Vous voyez? Donc cette question de conscience est très importante. Mais on va seulement s'approcher de l'autre personne avec qui on a une distance, si on sait que l'autre personne est bienveillant à notre égard. Ça, c'est comme ça que ça marche dans les relations personnelles. Pourquoi Israël, l'État juif et l'État palestinien, ont du mal à négocier? Ils ne font pas confiance l'un ou l'autre, à l'autre. Mais avec Dieu, à cause du sacrifice parfait de Jésus, on sait qu'il est bienveillant à notre égard tout le temps. Est-ce que la rédemption était juste ponctuelle pour quelques instants, jusqu'à la prochaine fois que je pêche, que je commets une faute? Non. C'est une rédemption éternelle. Et donc, il est bienveillant envers moi éternellement. Ça, franchement, ça a révolutionné ma vie. Je suis tellement content d'avoir découvert ça. Une bonne conscience devant Dieu, c'est super, grâce à la mort de Jésus. Alors, on va terminer la deuxième moitié du texte en plus de vitesse. Donc, troisième chose, il explique le sang, vie pour vie. Pourquoi du sang? Franchement, le temple juif était comme un abattoir. On tuait des bêtes tous les jours. Il a dû avoir du sang partout. Ils arrosaient du sang dans des endroits différents. Même dans le lieu très saint, ce jour, ben vous allez lire tout à l'heure, il mettait du sang sur l'arche de l'Alliance et sur le couvercle, le propriétoire. Pourquoi tant de sang? Et pourquoi le sang de Jésus? C'est pas un peu barbare? C'est souvent la critique qu'on reçoit. On se tape ces critiques, c'est barbare, c'est pas digne de Dieu. Ben, lisons la suite. C'est vraiment à partir du verset 15 où il parle beaucoup du sang. Voilà pourquoi il est médiateur d'une nouvelle alliance, afin qu'une mort ayant eu lieu pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent la promesse de l'héritage éternel. Car là où il y a testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'entre en vigueur qu'après le décès, puisqu'il n'a pas de validité tant que le testateur est en vie. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion du sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et aspergea le livre lui-même, donc le livre de l'Alliance, et tout le peuple, en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Et de la même manière, il aspergea de sang le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Alors, je pense que voilà, dans cette description, encore, il compare l'ancienne alliance avec la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance, quand même, nous enseigne des choses. Et c'est surtout ce dernier verset qui est vraiment clé. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de cela? Je pense que ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que le péché, lorsqu'on offense Dieu, voilà, lorsqu'on offense Dieu, c'est très très sérieux. C'est très sérieux parce que il faut une vie à la place de ma vie pour rester en relation avec Dieu. Vie pour vie. Ceci est peut-être plus clair en lisant le verset clé ou les versets clés sur le sang dans toute la Bible, dans Lévitique. Si un homme de la maison d'Israël ou des immigrants qui résident au milieu d'eux consomme du sang quelconque, je tournerai ma face contre la personne qui consomme le sang. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Pourquoi? Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation. Pourquoi? Pour votre vie. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Si vous n'avez plus de sang, vous n'aurez plus de vie. C'est ça. Vous enlevez le sang à quelqu'un, la personne meurt. Et donc, le péché, offenser Dieu, est tellement sérieux que notre vie est mise en danger vis-à-vis de Dieu. Et la seule manière d'être racheté de cette situation et que une vie qu'il y ait une vie en substitut pour votre vie. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie en substitut à la place de notre vie, pour que nous puissions avoir un accès à Dieu. Alors, encore, nous allons réfléchir davantage à ce sujet la semaine prochaine. Pourquoi la vie de Jésus marchait alors que la vie des animaux ne marchait pas? Pourquoi pas en rester avec les animaux? Pourquoi Dieu avait-il besoin d'envoyer son propre fils? C'est très très important de résoudre cette question-là. D'accord? Mais au moins ça nous enseigne que le péché est très 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 sérieux devant Dieu. Et là, je voudrais juste m'adresser brièvement aux gens qui n'ont pas de conscience sensible, qui pensent qu'ils n'ont jamais fait rien de grave. Vous connaissez le type. En fait, souvent, leurs fautes sont très très claires pour les autres. Mais pour ce type-là, et je dis ce type-là parce que en étant le type mauvaise conscience sensible, je ne suis pas exactement ce type-là. Je suis toujours en train de penser que j'ai fait la mauvaise chose, même si c'est l'autre personne qui était fautive. D'accord? Mais si vous êtes dans ce cas-là, en fait, vous avez toujours raison. Et même si vous avez eu tort, vous pouvez trouver des manières de justifier des conditions. Il y a des choses qui sont arrivées qui ont fait que je ne pouvais pas faire autrement. Vous connaissez ce genre d'argument? C'est la personne qui a une conscience qui a toujours raison. On a besoin de savoir que offenser Dieu est sérieux. Vie pour vie, ça coûte très cher. Et même entre nous et Dieu, ça coûte la vie de son fils. Ce n'est pas uniquement des animaux, c'est très très sérieux d'offenser Dieu. Alors, dernière chose, le sacrifice une fois pour toutes dans les derniers versets. Je vais juste lire ces derniers versets, versets 38 à 23 à 28. Il était donc nécessaire que, d'une part, les représentations des réalités célestes soient purifiées de la sorte, et que, d'autre part, les réalités célestes elles-mêmes le soient par de meilleurs sacrifices. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait par la main de l'homme, imitation du véritable, mais dans le ciel même, afin de se présenter maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'y est pas entrait afin d'offrir plusieurs fois, afin de s'offrir plusieurs fois. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Car alors le Christ aurait dû souffrir plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. J'aime beaucoup cette finalité, pour abolir le péché. C'est efficace son travail. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi, le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaître une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour que ceux qui l'attendent, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Alors, je pense que vous avez entendu plusieurs fois l'auteur met en valeur le fait que Jésus est mort une seule fois. Et ça parle de son efficacité. Encore, c'est un thème majeur de la semaine prochaine, donc on ne va pas s'attarder dessus. Mais juste dans les deux derniers versets, c'est très intéressant son argument. Il dit que même pour nous, on meurt une seule fois. Nous, nous mourrons une seule fois. Et après cela, nous allons faire face au jugement de Dieu. Donc attention. Hein? Mais de la même manière, Jésus est mort une seule fois. C'est un homme. Il ne va pas mourir plusieurs fois. Mais comme il a vaincu la mort, comme il est ressuscité, comme il a offert un sacrifice parfait pour le péché, il va revenir une deuxième fois pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. J'aime bien ce dernier verset parce que ça ouvre une perspective au salut éternel, à la vie après la mort avec Dieu. C'est pas seulement qu'on a une bonne conscience avec Dieu maintenant, c'est que la rédemption est réellement éternelle et va perdurer au-delà de la mort, jusque dans l'éternité avec lui. Donc, c'est formidable ce que Jésus a fait pour nous, n'est-ce pas? Et si vous êtes parmi ceux qui ont une conscience comme la mienne, prenez courage, fixez vos yeux sur Jésus. Si vous êtes parmi ceux qui ont une conscience dure, fixez vos yeux sur Jésus pour apprendre combien votre péché a offensé Dieu et combien il a payé pour vous ramener à lui. Et dans tous les cas, fixons nos yeux sur Jésus, parce que avec lui, la rédemption est éternelle. Il va revenir pour nous prendre, pour vivre avec lui pour toujours.